Église du Lot. Balade découverte des églises et chapelles de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Alors aujourd'hui pour Église du Lot, nous retrouvons Clémentine Baudry. Bonjour Clémentine.
Oui, bonjour Martine.
Bonjour à tous.
Et nous retrouvons bien sûr Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Bonjour Marie-Madeleine. Donc, nous sommes toujours dans l'église Saint-Firmin de Francoulès avec un immense plaisir parce que vous voyez, c'est une église riche en beaucoup de détails. Alors, Clémentine, nous avons parlé des différentes peintures, au niveau du chœur et de l'abside. Et nous avons parlé également des vitraux. Alors, en sortant du chœur, lorsque nous levons la tête, il y a des choses aussi que nous apercevons au niveau de cette architecture particulière. Clémentine, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il y a exactement pour nos auditeurs ?
Alors, en sortant du chœur, nous apercevons au niveau des pilastres deux demi-colonnes en hauteur. Et en haut de ces demi-colonnes, on aperçoit donc il y a des chapiteaux. Et sur ces chapiteaux sont sculptés sur les côtés. Alors à gauche une croix grecque et à droite un soleil.
Alors, est-ce que au niveau de la croix grecque et du soleil, Marie-Madeleine, vous auriez dans vos tablettes quelques explications supplémentaires ?
Alors, la croix grecque, c'est une croix dont les bras sont égaux par rapport à la croix latine, dont la partie inférieure est plus longue que la partie supérieure. Et les deux bras sont d'égale longueur avec la partie haute. Voilà. La croix grecque, par contre, elle forme un carré, si on peut dire. Voilà. Par contre, le soleil qui est en face peut faire penser à des références païennes, puisque le soleil, c'est le dieu. C'est le dieu, dans la tradition égyptienne, Ra, c'est le dieu soleil. Et là, pourquoi y aurait-il ce soleil ici ? C'est que encore au Moyen-Âge, il fallait donner quelques références païennes pour les gens qui, de tradition, n'auraient pas encore admis le christianisme. Ça pouvait exister. Donc voilà, moi je l'interprète comme ça. Il peut y avoir d'autres interprétations. Peut-être Clémentine en a-t-elle une autre.
Alors Clémentine, avez-vous une autre explication ou êtes-vous d'accord avec Marie-Madeleine ?
Je penche pour l'explication de Marie-Madeleine.
Bien, voilà, un bon point pour vous Marie-Madeleine. Donc en sortant du chœur toujours, nous avons côté sud, en bas du vitrail qui est destiné à Saint-Firmin, nous apercevons une gravure. Alors Clémentine.
Alors c'est une gravure du Saint-Suaire. On y voit, c'est un linge qui est reposé sur le visage du Christ. Et donc cette gravure représente le visage du Christ sur un linge.
Très bien. Marie-Madeleine va sûrement peut-être apporter sa petite touche. Oui, qu'est-ce que vous pouvez peut-être donner comme précision ?
Il faut que je donne mon grain de sel, bien sûr. Bon, mais donc ça représente la Sainte Coiffe, avec la face du Christ imprimée dessus. Alors on pourrait penser au voile de Véronique, mais c'est vraiment le Saint-Suaire de Cahors, c'est-à-dire la Sainte Coiffe. Et on retrouve cette gravure dans beaucoup, je pense, d'églises du Lot, et en particulier à la cathédrale, dans la chapelle axiale, sur la droite, vous avez cette gravure qui a été évidemment diffusée dans tout le diocèse à l'époque. Voilà.
Que beaucoup de liens avec la Sainte Coiffe. Alors, nous apercevons à droite une statue tout de bleu vêtue. Donc, Clémentine, effectivement, quel est le personnage de cette statue ?
Alors, c'est le bienheureux Saint Jean Gabriel Perboire. Alors, il n'est plus bienheureux, je crois. Il est sanctifié. Voilà, c'est un saint local du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Habituellement, il est vêtu de rouge, là il est vêtu de bleu. Il est présent dans quasi toutes les églises du Lot. Voilà, il est originaire du Lot, il est allé dans la région, il était missionnaire, il est allé se rendre dans la région de Huan, en Chine, où il est mort martyr.
Voilà, Wuhan étant une ville connue depuis quelque temps de façon internationale, mais pour un autre événement. Marie-Madeleine, une précision sur Saint-Jean-Gabriel Perboire, peut-être ?
On peut raconter rapidement l'histoire de Saint-Jean-Gabriel, qui était donc d'une famille rurale de Montgesti, et qui a accompagné son petit frère au séminaire de Montauban, je pense, oui, c'était Montauban, parce que le petit frère était pressenti comme futur prêtre, et les prêtres du séminaire se sont rendus compte que le frère aîné était aussi bien que le petit frère, et donc de fil en aiguille, tous les deux ont fait le séminaire. Le petit frère a grandi et est devenu prêtre, et a été envoyé en mission en Chine. Mais hélas, il est mort dans un naufrage sur le chemin de la Chine. Et donc son grand frère a dit « Mais moi aussi, je veux aller en Chine ». Seulement, il était d'une santé très fragile, et ses professeurs ont hésité à l'envoyer tout de suite en Chine. Mais il était vraiment, il voulait y aller, il insistait pour y aller, et il a fini par partir. Part donc aller dans cette province de Chine du sud-ouest, je crois, de Chine, et il a fait plusieurs paroisses, mais pour finir finalement dénoncé, hélas, par un catéchumène on va pas lui jeter la pierre, hein, devant les tortures chinoises, je pense que peu résisterait. Et donc, il a été mis sur une croix, comme son maître, hein, comme Jésus, attaché à une croix et garrotté, enfin, si vous voulez, étranglé petit à petit, un peu tous les jours, au soleil, et il en est mort, bien sûr. Voilà, c'était en 1841.
Face au cœur, quand nous sommes face au cœur, là, nous y sommes devant, nous avons à notre gauche une chapelle. Donc cette chapelle n'a pas été construite en même temps que l'église. Clémentine,
oui, cette chapelle a été rajoutée au XVe siècle et on y a construit en même temps une mise au tombeau. Donc c'est une des rares mises au tombeau du Lot. Donc à l'intérieur on peut y voir donc plusieurs personnages. Pour parler un petit peu plus de cette mise au tombeau, on distingue un blason, donc on suppose que c'est un noble qui a permis la construction de cette chapelle. C'est une façon de rappeler ici que c'est lui qui a été le donateur. On distingue également sur le fond de cette mise au tombeau la peinture qui représente Jérusalem. Voilà, le Golgotha. Sur cette mise au tombeau, donc on peut distinguer le personnage de Jean avec ses cheveux ondulés. Il y a Marie qui est habillée en bleu, les saintes femmes et deux personnages qui sont habillés assez richement. Donc, je pense qu'il doit y avoir sans doute Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine.
Oui, il y a traditionnellement Joseph d'Arimathie et Nicodème, mais là ici il y a plus de personnages féminins, si j'ose dire, en plus de Saint Jean. Il y a cinq, je pense. Voilà, on va.
Nous allons devant, nous marchons pour aller jusqu'à cette mise au tombeau remarquable. Donc, comme vous disiez, Marie avec son voile bleu est habillée de bleu. Donc, il y a une particularité. Je vois des bras coupés. Est-ce qu'il y a une signification à ces bras coupés, Clémentine ?
Alors, on a deux versions. Effectivement, les bras ont été coupés. Alors, il y a une première explication où, apparemment, des bandits seraient venus dans l'église et sous Louis XIV auraient pillé l'église et l'aurait saccagé, donc aurait au passage coupé les bras et les mains des personnages et volé le Christ. Et l'autre explication, c'est que durant la guerre de religion, mais les opposants se sont vengés sur les personnages, sur les statues. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, le Christ que nous voyons dans la mise au tombeau date du XVIIIe siècle. Et sur le tombeau, fait assez particulier, il y a des inscriptions en gothique, et ces inscriptions en lettres gothiques apparaissent en fait en écorce d'arbre.
Marie-Madeleine, est-ce qu'il y a une précision que vous voulez apporter peut-être aux très très belles explications de Clémentine ?
Alors, c'est cette question des bras enlevés. J'ai dit enlevés parce que sur certains personnages, ils étaient fabriqués séparément du corps. Et on les fixait avec des tenons sur le corps des personnages. Donc on voit en particulier deux personnages, Saint Jean et une des sœurs de Marie, où on voit très bien les trous des tenons, hein, de la place des tenons. Les autres, par contre, ont été sabrés, si j'ose dire. Hein, voilà. Et alors, est-ce les guerres de religion ? Parce que cette mise au tombeau, elle date du début du XVIe.
Ou XVe, XVIe, c'est ça.
Voilà, fin XVe, début XVIe. Les guerres de religion, c'est 1574, la Saint-Barthélemy, 1574. Donc, voilà, ça a pu se passer là. Ça a pu être aussi au XVIIe siècle, sous Louis XIV, hein, c'est possible. On peut pas répondre, hein, mais les personnages, tous les personnages traditionnels y sont, hein, Joseph d'Arimathie et Nicodème au premier plan. Ensuite, il y a un personnage féminin à gauche, à côté de Saint Jean. Ensuite, une sœur de la Vierge, hein, Marie, Cléophas ou Marie Jacobée. Alors, le personnage féminin à gauche peut être aussi Marie Salomé, hein, parce qu'il y en avait trois, et la Vierge donc au centre, une autre sœur, ensuite peut-être une servante ou quelqu'un qui regarde les autres personnages, hein, une femme qui regarde les autres personnages, qui est voilée, mais qui paraît plus simple que les autres, moins richement habillée. Et ensuite, Marie-Madeleine à droite, qui devait porter donc un vase de parfum, qui est son attribut traditionnel, mais elle n'a plus de main, donc on ne voit pas. Et donc ce Christ, qui est donc 18e, hein, ce qu'on appelle un Christ rapporté, hein, en termes artistiques. Donc il y a une plaie à droite, alors que le cœur se trouve à gauche, mais je pense que c'est pour que le spectateur puisse bien voir la plaie, hein. Et évidemment les plaies aux mains et aux pieds. Et ensuite, oui, ce tombeau, cette pierre qui est très curieuse, puisque les lettres sont creusées, si vous voulez, insculpées, comme on dit, creusées, et à l'intérieur de ces creux, on a mis une écorce d'arbre. En fait, des écorces d'arbre, c'est voilà, qui marquent bien qui font bien ressortir les lettres et les inscriptions. C'est très particulier, ça.
Alors, il y a autour de cette mise au tombeau trois statues, une complètement au-dessus qui représente bien sûr la Vierge à l'enfant, et de chaque côté, il y a deux femmes, on peut dire. On a l'impression que ce sont des sculptures sur bois. Est-ce que je me trompe à la première vue ou c'est vraiment en d'autres matières ?
C'est du bois, c'est du bois, c'est du bois peint. Hein, c'est du bois peint qui doivent dater du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, voilà à peu près. C'est un encadrement qui va très bien autour de cette mise au tombeau, hein, et qui représente des sortes d'atlantes féminines. Atlantes, ça veut dire qui portent, voilà, des cariatides. Merci Clémentine, je cherchais le mot, qui portent donc, qui soutiennent quelque chose, hein, cariatide. Qui soutiennent quelque chose, voilà, et qui soutiennent donc un entablement crénelé tout à fait typique de cette époque-là. Au-dessus, donc, une niche qui couvre une statue de la Vierge l'Enfant, comme vous l'avez dit.
Alors, lorsque nous regardons tout autour de cette chapelle, nous apercevons déjà sur les murs des peintures. Avant de parler de la voûte, nous voyons des peintures aux couleurs ocre, hein, un petit peu comme celle de l'abside. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, Clémentine?
Alors, toutes les peintures de cette chapelle sont dédiées à la Passion du Christ. Donc, on peut apercevoir la flagellation, le Christ portant la croix. Et donc, du coup, sur ce pan de mur, il y a également
le Christ aux outrages.
Pensais que c'était les épines, le couronnement d'épines.
La pose ce qu'on appelle, parce que c'est l'ensemble des souffrances qu'a vécu le Christ. Donc, ça s'appelle le Christ aux outrages, hein, puisque on lui a mis la couronne d'épines, on lui a mis le manteau rouge de la honte, enfin de l'humiliation, hein, sur les épaules déjà très martyrisées par la flagellation. Ensuite, on lui a donné ce sceptre en branche d'hysope, hein, qui lui donnait, puisqu'il se disait roi, eh bien voilà, le sceptre du roi, hein. Et puis on s'est moqué de lui, on l'a giflé, on lui a craché dessus, etc. Hein, voilà, tout ça, c'est l'ensemble des outrages.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les peintures?
Alors, elles sont en mauvais état, parce qu'au 18e, on a mis, ou peut-être avant même, sans doute au 17e, on a mis un enduit qui a recouvert les peintures, et cet enduit est tombé par la suite, donc je crois qu'il est tombé au 18e d'ailleurs. Et donc, quand cet enduit est tombé, il a enlevé les pigments, et en fait, il ne reste plus grand-chose. On devine des formes, mais on ne voit plus très distinctement les peintures initiales.
Alors, lorsque nous levons les yeux, cette magnifique voûte, il y a plusieurs détails là qui sont fort, fort importants. Alors, quels sont ces détails? Qu'est-ce qui est représenté exactement, Clémentine?
Alors, sur chacune des parties des voûtes d'arête, là, on distingue beaucoup plus clairement les instruments de la torture de la Passion du Christ. Donc, on voit le manteau, on distingue l'échelle. Donc, sur chaque partie, il y a vraiment plusieurs symboles. D'ailleurs, qu'on ne voit pas forcément toujours. Je vois par exemple l'épée, on la devine pas systématiquement, enfin c'est pas représenté systématiquement dans les instruments de la Passion.
Marie-Madeleine?
Oui, c'est l'ensemble des instruments de la Passion que l'on appelle en latin arma Christi, les armes du Christ, qui symbolisent sa Passion. Alors, comme l'a dit Clémentine, il y a un certain nombre de représentations de ces symboles de la Passion, donc l'échelle en particulier, aussi les clous avec le marteau qui les a enfoncés, la croix, nous avons aussi la plaque inscrite au-dessus de la croix avec les lettres INRI, I-N-R-I, hein, « Je suis le roi des Juifs ». Ensuite, nous avons l'aiguière, c'est-à-dire la verseuse d'eau qui symbolise le lavement des mains de Ponce Pilate. Le glaive, donc, dont a parlé Clémentine, qui, rappelez-vous, lors de l'arrestation de Jésus, Saint-Pierre a pris le le glaive d'un des soldats pour couper l'oreille du soldat, de Malchus, hein, voilà. Ensuite, nous avons le coq symbole du reniement de Pierre, hein. Pierre qui a renié le Christ pendant sa passion, qui s'est caché et qui a dit « mais non, je ne fais pas partie de ses amis, je ne suis pas de... » Et au bout de 3 reniements, le coq a chanté. Et là, Pierre s'est souvenu de la, entre guillemets, de la prophétie de Jésus qui lui avait dit, mais Pierre, tu me renieras, hein, et au bout de tes reniements, le coq chantera. Voilà. Et ensuite, nous avons également la lance qui a donné le coup dans le côté de Jésus. Ensuite, nous avons une pique avec une éponge au bout. Puisque Jésus, au moment de mourir, a dit « j'ai soif » et on lui a donné une éponge imbibée de vinaigre. Ensuite, nous avons de nouveau les guerres de Ponce Pilate et puis la tunique de Jésus à droite que les soldats ont jouée. Et on voit les dés à gauche, on voit les 4 dés. Qui symbolise ce jeu des soldats qui sont, ils n'ont pas voulu partager la tunique puisqu'elle était tissée dans un seul tenant, si j'ose dire, et c'est l'un des soldats qui l'a remporté, lequel on ne sait pas, mais ces 4 dés symbolisent ce tirage au sort, et ensuite les 4 dés encadrent une main qui symbolise tous les outrages que Jésus a subis, en particulier les gifles.
Alors, nous allons sortir de cette chapelle, cette magnifique chapelle, et nous allons juste dire quelques mots, Clémentine, de l'église Saint-Pierre de l'Iversou, qui est à 3-4 kilomètres d'ici, concernant l'abside, justement, et un petit peu la particularité, ou tout au moins la ressemblance par rapport à Saint-Firmin de Francoulès.
Alors, ces deux églises ont effectivement beaucoup de ressemblances sur leur plan. Elles sont de même dimension. Celle de Saint-Pierre-l'Iversou a une chapelle supplémentaire. Donc, ça forme comme un petit transept. Il y a également une petite abside qui est similaire dans les... Donc cette petite abside comporte également des peintures de l'époque médiévale, entre 13e et 15e, voilà, pour ces peintures qui sont également dans les tons ocre. Cette église existait en parallèle. Elle a été construite sans doute à peu près à la même période et elle a été construite non loin du prieuré de Molière. Voilà. Et donc les abbés ou pas, plutôt les prieurs auraient peint cette église donc dans le chœur en guise de paiement pour l'occupation de cette église quand leur prieuré a été en suffisamment mauvais état pour qu'ils ne puissent plus y prier.
Très bien. Et je suppose que le temps de réalisation était plus ou moins long suivant le pécunier, je suppose.
Oui, les campagnes de construction pouvaient être assez longues, effectivement, en fonction des moyens que les terres pouvaient permettre de sortir pour construire justement de terre un édifice. Et du coup, en tout cas, le prieuré de Molière, qui n'était pas très loin, a été construit sur plusieurs décennies, et on peut supposer la même chose des églises de Francoulès et de Saint-Pierre-l'Iversou.
Alors, Saint-Pierre de l'Iversou, on distingue tout de suite quelque chose, c'est que je ne vous ai pas vu allumer la lumière. Donc, est-ce que vous pouvez nous en donner une petite explication ?
Alors, Saint-Pierre-les-Varsous, même si alors, à l'heure actuelle, elle est très isolée. À l'époque, elle constituait à elle seule une paroisse, de même que Saint-Firmin. C'était deux paroisses distinctes qui comportaient aux alentours de 380 personnes. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus isolée, et ce qui explique sans doute que elle n'est pas rattachée à l'électricité, et donc il n'y a ni lumière ni chauffage dans cette petite église.
Et y a-t-il des messes ou y a-t-il d'autres manifestations religieuses ?
Alors, à Saint-Pierre-les-Varsous, il y a essentiellement les enterrements qui ont lieu, ou des baptêmes éventuellement, ou mariages. Mais la plupart des messes qui ont lieu à Francoulès se situent à Saint-Firmin, et on devrait en avoir environ 3 ou 4 dans l'année.
Eh bien, écoutez, mesdames, je vous remercie beaucoup pour ces deux émissions fort intéressantes au sein de l'église Saint-Firmin de Francoulès, avec un petit détour par Saint-Pierre-de-Liversou. Merci beaucoup, Clémentine, de votre présence et de vos explications qui ont été très intéressantes et, je pense, ont beaucoup intéressé les auditeurs. Merci, Clémentine.
Merci beaucoup à vous.
Merci Marie-Madeleine, dont on connaît la passion pour tout ce qui est art sacré. Merci beaucoup Marie-Madeleine de nous avoir éclairé également sur ces deux églises, ou tout au moins sur l'église Saint-Firmin de Francoulès.
Merci Martine de nous donner l'occasion de raconter toute cette histoire sainte à travers ces églises.
Voilà, nous allons continuer parce que nous avons de très bons retours sur ces émissions, les auditeurs sont très intéressés. Merci mesdames, au revoir et à la semaine prochaine pour une autre balade découverte dans les églises du Lot.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Église du Lot. Votre balade hebdomadaire des églises et chapelles de notre département, présentée par Martine Dufour et Marie-Madeleine Reille.